France Culture. Ils sont 12 millions à entrer chaque jour sur le territoire européen. Les petits colis, ceux dits de faible valeur, ont envahi nos vies et de fait les rues et les routes qu'ils empruntent quasiment sans interruption afin d'arriver à destination en temps et en heure. Surtout, ces petits colis sont deux fois plus nombreux qu'il y a un an. Une accélération qui a été qualifiée par leur commissaire européen au commerce, Maros Sefcovic, de véritable tsunami. Car les pouvoirs publics entendent contenir cette vague qui déferle en grande majorité depuis la Chine, d'où proviennent 91% de ces fameux petits colis. La Commission européenne a annoncé le 5 février dernier qu'elle souhaitait imposer des frais de traitement à ces colis et a également donné une date butoir au géant du e-commerce Shein qui a jusqu'à demain pour fournir des renseignements sur les mesures prises pour atténuer les risques liés à la protection des consommateurs, à la santé publique et au bien-être de ces fameux utilisateurs. De leur côté, les États-Unis confrontés eux aussi, mais à une hausse de 600% en 10 ans du nombre d'envois de colis depuis la Chine, avait annoncé le 17 janvier que les colis chinois de moins de 800 dollars ne seraient plus exemptés de taxes, ce qui était le cas jusqu'alors. La mesure a depuis été abandonnée, le 7 février dernier, mais la question demeure, comment en est-on arrivé là? Comment en 30 ans le e-commerce est-il parvenu à prendre une telle importance économique, spatiale et sociale? La question se pose d'autant plus qu'a priori, on pourrait se dire que la gestion logistique ne crée pas en soi de valeur. Les géants du e-commerce comme Amazon ou Temu ne sont ni fabricants ni même transporteurs, du moins jusqu'à récemment. Et pourtant, ces acteurs battent sans cesse leurs propres records. On parle de 20 milliards de dollars de bénéfices nets pour Amazon et 4 milliards d'euros pour Temu, ce qui correspond pour lui à une augmentation de 144% entre 2023 et 2024. Derrière ces résultats mirobolants se trouvent à la fois des stratégies propres à chaque entreprise, bien sûr, mais aussi une obsession qui devient une science en soi, celle de l'optimisation du temps, de l'espace, du travail, partout, tout le temps, à chaque étape de cette longue chaîne qu'est la logistique. Alors comment la logistique, confrontée à sa propre montée en puissance, est-elle devenue la science formalisée comme telle de l'optimisation? Et comment cette obsession est-elle devenue source d'enrichissement? Ce sont toutes les questions que nous allons nous poser aujourd'hui dans cette émission préparée et programmée par Anouk Milliot, réalisée par Cassandre Puel et Noé Mignard, et mise en onde aujourd'hui par Alex Dang. Summoner's Tale, un titre de Sting issu de l'album du même nom, album qui aurait été selon la légende le premier article acheté en ligne le 11 août 1994. Un an plus tard, c'est Jeff Bezos qui expédie sa première commande depuis son garage et c'est ainsi que l'on date la naissance du e-commerce. Alors les dates font débat, mais ce sont environ, on va dire, les horizons historiques qui sont les nôtres. Il y a donc 30 ans cette année. Nathalie Fabcoste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure en sciences de gestion à Aix-Marseille Université, vous êtes chercheuse au CERGAM et puis vous êtes également l'autrice d'un ouvrage, La digitalisation des entreprises industrielles, paru aux éditions EMS en 2024. Et vous êtes, il faut le dire, avec nous à distance depuis les studios d'ici à Aix. Et j'en profite pour remercier Bertrand Montandon qui assure la liaison avec nous depuis Aix et avec nous ici à Paris. Alors une première question pour commencer, Nathalie Fabcoste. Les chiffres que j'ai un peu plus haut impressionne, avec notamment cette idée d'un doublement en un an du nombre de ces fameux petits colis qui arrivent en Europe. Comment l'expliquer? Pourquoi un tel déferlement en à peine une année?
Alors, un déferlement depuis une année, tout simplement parce que les acteurs du e-commerce, vous en avez cité trois qui sont les plus importants mondialement, Amazon, Chine, Temu, eh bien, ce sont ceux qui représentent l'essentiel des colis du e-commerce. Amazon, faut pas l'oublier, est le premier client de la Poste, mais il ne représente que 21% des colis de la Poste, pour prendre l'exemple en France, alors que Temu et Chine représentent 22%. Donc, à eux tout seuls, ces trois-là, ça représente énormément de colis et on a observé une croissance exponentielle du e-commerce depuis 2010. Parce qu'en fait, vous avez évoqué le début timide du e-commerce, très timide en 90. Mais le vrai démarrage du e-commerce, c'est avec Internet, tout début des années 2000. Mais c'est timide jusqu'en 2010 pour des raisons très concrètes, des raisons de paiement. Avec rassurer le client sur la sécurisation des paiements. La logistique que vous avez évoquée, bien sûr, puisqu'il faut arriver parfaitement dans les délais avec le bon colis au bon endroit, là où le client le souhaite, et 77% des clients souhaitent le colis chez eux. Et puis par ailleurs, il faut régler un problème essentiel dont on reparlera certainement, c'est la question des retours. Puisque si le produit n'est pas satisfaisant, ou s'il a été abîmé dans le transport, ou si on a changé d'avis, eh bien, le consommateur veut pouvoir retourner son colis, ce qui représente un autre flux, qui est le flux de reverse logistique. On a mis 10 ans à peu près pour régler ces problèmes, et à partir de 2010, eh bien, tout va bien, donc ça explose.
Et Nathalie Fabkos, je vous confirme qu'on va reparler de cette question des retours, puisque cela représente un défi logistique, mais aussi une forme de coût, de fait, aussi pour ces plateformes de vente en ligne. Laetitia Dablan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteure en urbanisme de l'École des Ponts, directrice de recherche au sein du laboratoire Ville, Mobilité, Transport à l'Université Gustave Eiffel. Alors, on vous doit plusieurs ouvrages. Citons le plus récent, La logistique urbaine, paru il y a environ 15 jours aux éditions techniques de l'ingénieur. Ça fait un certain temps que vous étudiez les conséquences du développement de ces chaînes logistiques et notamment au niveau des territoires. Est-ce que ce déferlement de petits colis qui semble avoir affolé assez récemment, et de fait, on le voit dans les données, il y a effectivement une très forte augmentation. Est-ce que c'est en soi une nouvelle donne? Est-ce que on peut le voir comme un bouleversement, un tournant aussi de ce e-commerce qui, on l'entendait avec Nathalie Fabkos, date effectivement, on peut le dire, des années 2010. Est-ce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation nouvelle qui est effectivement l'explosion de ces tout petits colis?
Oui, c'est très impressionnant les chiffres. Après, ça sera absorbé par le e-commerce en général qui n'a fait que croître, à part la période 2021-2022 où il y a eu une réduction du e-commerce de produits en Europe et dans le monde. Mais les chiffres 2024 ont montré qu'on était reparti sur de la croissance du e-commerce. Donc, Chine et Temu rajoutent des produits, des tout petits colis, à un univers qui est déjà bien achalandé et qui est déjà ancré dans les consommations des gens. Ce qui est impressionnant et très différent, je pense, en ce qui concerne ces deux entreprises, pour le moment, c'est leur logistique qui n'est pas encore adossée sur des gros entrepôts comme peuvent l'être Amazon ou Cdiscount, proches des territoires. Ce sont encore des livraisons qui partent de Chine directement. Et ça veut dire une logistique assez différente et un impact territorial assez différent pour les territoires européens ou nord-américains qui consomment ces produits. Mais cette logistique-là, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais sera peut-être amené à évoluer et à se normaliser avec l'installation de gros entrepôts de stockage comme le font les autres.
Si on vous comprend bien, Laetitia Dablan, c'est cette idée que finalement il y a un trajet quasiment direct de la Chine à l'Europe, qu'il n'y a pas de point de relais finalement comme ça existe pour d'autres plateformes de vente en ligne, et c'est la spécificité de ces...
Avant-commande, il n'y a pas ces entrepôts qui stockent pas très longtemps, mais qui stockent l'ensemble de ces marchandises, comme peut le faire Amazon, avec une dizaine de très très gros entrepôts, par exemple en France. Chine et Temu vont avoir tendance à les envoyer après commande directement. Après, évidemment, il y a passage par tous les terminaux, les bâtiments qui permettent de gérer la chaîne de transport. Mais il n'y a pas cette étape préliminaire qui est le stockage de toutes ces références produits sur des entrepôts disséminés un peu à travers l'Europe.
Donc on le comprend, ce sont surtout de nouveaux acteurs et donc une nouvelle offre qui provoque une augmentation de ces fameux petits colis qui circulent à travers le monde et qui parviennent donc de fait en Europe. De façon plus générale et à la fois plus précise, la FEVAD, la Fédération e-commerce et vente à distance, qui rassemble près de 800 entreprises du secteur, a publié le 13 février dernier un rapport sur l'état du commerce en ligne en France et qui aurait donc, selon ces données, atteint un chiffre d'affaires record de 175,3 milliards d'euros. C'est une hausse, on le disait, de 9,6% par rapport à l'année précédente. Globalement, Nathalie Fabcoste, au-delà de ces deux acteurs assez exceptionnels que sont Chine et Temu, c'est un marché qui, globalement, se porte quand même bien, même 30 ans après ses tout débuts.
Ah oui, c'est ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est un marché, enfin en tout cas le e-commerce a eu une croissance à peu près continue depuis son décollage, on va dire, de quasiment au moins 10% par an, ce qui est quand même extraordinaire. Encore une fois, dans le e-commerce, il faut dissocier deux choses, le e-commerce des services, puisqu'il y a plus de la moitié, c'est un commerce de services. Et celui-là est immatériel, puisqu'on est sur des réseaux électroniques. Le e-commerce, c'est un commerce en ligne et qui est donc électronique. Donc, certains produits, au passage, ont été dématérialisés. On parle de e-book, par exemple. Et c'est là-dessus qu'était parti, d'ailleurs, Jeff Bezos avec Amazon. Au départ, c'était une librairie qui voyait la disparition du livre physique, qui était parti sur l'électronique complètement. Et donc l'autre partie, c'est le e-commerce physique des produits. Et ça représente à peu près la moitié, on va dire grosso modo selon les pays, mais c'est à peu près la moitié. La particularité des petits colis, c'est qu'en fait, on vous autorise avec le e-commerce à avoir une gratuité de livraison, alors parfois avec un premier seuil, mais en fait, très vite, vous avez une livraison qui est gratuite. Alors sauf si elle est express, là, faut parfois payer, mais tant qu'elle n'est pas express, et ce qui est assez court parce que la Poste fait des délais très courts en France, mais c'est une livraison qui est gratuite. Donc finalement, on n'a pas besoin d'atteindre un seuil important pour bénéficier de cette livraison gratuite, ce qui veut dire qu'on a un panier moyen, la FEVAD l'indique bien, un panier moyen qui est assez faible, puisque on est entre 65 et 68 euros pour le panier de e-commerce, ce qui est petit, effectivement. C'est pour ça qu'on appelle ça des petits colis, parce qu'on est sur des paniers très faibles. Et bien sûr, avec des impacts relativement négatifs qui ont été améliorés, parce que vous l'avez dit, en fait, on a une optimisation permanente. Ils ont intérêt à optimiser, bien sûr, parce qu'à chaque fois que vous expédiez, vous expédiez des produits, certes, mais aussi des emballages, des suremballages pour protéger les colis, pour protéger les produits. Donc, puisque le colis, c'est un produit qui est emballé pour être expédié vers un destinataire.
Donc voilà. ce qu'on comprend, Nathalie Fabcoste, à travers ce que vous nous dites, c'est que finalement il y a un double mouvement, à la fois une augmentation assez forte du nombre d'usagers, de clients finalement de ces plateformes-là, qui sont de fait attirés par des prix assez faibles. Il faut bien préciser que Shein, c'est de la fast fashion qui propose des articles à très petit prix, donc augmentation de la demande, mais une demande qui de fait fait des petits paniers, des paniers qui n'ont pas un montant extrêmement élevé, ce qui conduit à la multiplication des commandes et donc de ces fameux petits colis. On a ce double mouvement-là qui est important. Nathalie Fabcoste, j'en reviens à ma question de départ, qui est la question qui va nous occuper finalement pendant toute cette émission, mais comment on peut comprendre que ce soit les acteurs les plus récemment entrés comme Shein ou Temu, mais aussi les plus anciens, donc Amazon et consorts, comment expliquer que finalement ces entreprises-là soient des entreprises florissantes, alors même qu'on pourrait se dire très naïvement, très basiquement, qu'ils ne produisent aucun article, à l'exception de Shein, mais typiquement Amazon ne produit rien, ne fabrique rien, et jusqu'à récemment n'était pas non plus un transporteur, donc elle ne proposait pas ce service-là de transport. Comment la logistique finalement parvient à créer de la valeur, à prouver sa valeur?
Tout simplement parce que ce sont des distributeurs. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs métiers dans le e-commerce. Je crois qu'il faut bien clarifier aussi les choses. Dans le e-commerce, on a trois grands types d'acteurs, pour faire simple. On a bien sûr des distributeurs, et il ne faut pas oublier qu'en France, par exemple, Télémarket, c'était issu des Galeries Lafayette, hein, et c'était avec du Minitel à l'époque. On démarrait ce type de vente. C'était des gens qui avaient déjà des modes de distribution avec déjà de la logistique, et qui se disaient, on va pouvoir greffer un canal supplémentaire sur une logistique existante. Donc on a un premier type d'acteurs qui sont des distributeurs, dont le métier, c'est de référencer des produits, de faire un catalogue. On peut aussi penser à la Redoute, hein, pour des exemples plus anciens, parce que la vente à distance n'est pas née avec Internet, c'était bien plus ancien. Donc c'est des gens qui ont la capacité à faire des catalogues, à faire un assortiment, à proposer des choix de produits et qui savent déjà distribuer, mais avec des magasins. Donc c'est vrai qu'au début, il y a eu ce mélange magasin et e-commerce. Les vrais pure players dont on parle, hein, c'est-à-dire des gens qui sont partis directement avec rien, eux, c'est des distributeurs. Ils se sont servis de quoi ? Des sites web pour jouer le côté magasin virtuel. Et derrière, une logistique qui, pour partie, a été opérée par des grands acteurs de la logistique, des gens dont c'est le métier, ce qu'on appelle des prestataires de services logistiques, dont fait partie La Poste, hein, ravie de distribuer Amazon et les autres. Donc on a tout un tas de professionnels de la logistique qui sont capables d'importer, de distribuer, de livrer jusqu'au dernier kilomètre et donc jusqu'au consommateur. Et donc tous ces gens-là se sont appuyés sur ces grands de la logistique. On peut penser à DHL par exemple, hein, pour en citer un, dont c'est le métier de faire de la logistique. Et à côté de ça, pourquoi est-ce qu'ils ont autant de succès ? Parce que une fois qu'ils ont la structure site web, une fois qu'ils ont la logistique, et certains comme Amazon investissent massivement et deviennent eux-mêmes des logisticiens, ils se disent, tant qu'à y être, on peut inviter des industriels à venir, des industriels ou d'autres distributeurs plus petits, à venir sur ce qu'on appelle aujourd'hui des marketplaces. Et donc, on va vous faire profiter de notre capacité à mettre en valeur les produits via le site web. On va vous faire profiter de nos compétences logistiques. Et au passage, évidemment, vous allez nous rémunérer pour ce service. Donc, ils deviennent eux-mêmes des prestataires de services de distribution et de logistique. Et c'est ce qui fait leur succès. C'est pas tant leur catalogue que tous les gens qu'ils arrivent à fédérer sur leur plateforme.
Alors, on va voir, on va tirer tous les tiroirs que vous venez d'évoquer, Nathalie Fabcoste. On va voir comment progressivement, effectivement, se met en place un véritable modèle économique et grâce à quel partenariat, quel environnement aussi. On le comprend, on commence à le comprendre dans ce que vous venez de nous dire aussi, que tout est une question d'optimisation. Vous l'avez dit, la logistique, c'est une véritable valeur ajoutée en soi, c'est une compétence en soi. Et dans la logistique, tout est une question d'optimisation, s'organiser de la façon la plus efficace possible. Alors, cette stratégie ne vient pas de nulle part et l'organisation du temps, de l'espace et du travail est un sujet de préoccupation majeure de personnages comme Frédéric Taylor ou Henry Ford qui pensent l'organisation scientifique du travail dans les usines.
Dans toute entreprise, la marche de fabrication est établie en fonction du meilleur parti à tirer de l'espace disponible et dans le but d'assurer un acheminement régulier et continu du produit à chaque étape de sa fabrication, tout en réduisant au maximum le trajet à parcourir et les opérations de manutention. Mais il reste beaucoup d'usines qui ne possèdent pas de chaîne de fabrication, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens d'installer des convoyeurs à bande ou un équipement similaire relativement coûteux, soit parce que les produits fabriqués ne se prêtent pas à de telles méthodes. Et pourtant, il existe d'autres moyens d'améliorer le circuit des matières. C'est ainsi que les opérations de manutention, essentiellement improductives, seront réduites par l'emploi de chariots élévateurs à fourches ou même en utilisant des plans inclinés. Mais le contrôle rationnel de la marche de fabrication ne dépend pas uniquement d'un équipement efficace et de machines modernes. C'est essentiellement le résultat d'un planning rigoureux et d'une bonne organisation de l'usine, et cela à chaque poste de travail. Chaque ouvrier doit avoir la possibilité de faire fonctionner sa machine avec le moins de temps mort possible. Dans certains cas, sans augmentation de personnel, la production a augmenté de 100%. Et ces résultats s'expliquent quand on examine l'économie de mouvement réalisée. Voici une maquette d'atelier avant réorganisation. Les fils indiquent le trajet effectué par les produits en cours de fabrication. Après réorganisation, l'atelier n'est pas seulement devenu plus moderne, et les conditions de travail plus faciles, le trajet des fabrications a pu être diminué des deux tiers. d'où une économie de temps et d'argent.
Une économie de temps et d'argent, Laetitia Dablan, on l'entendait dans cet archive de 1956, ne pas perdre de temps, d'espace, organiser au mieux les déplacements. Et donc le travail est une obsession qui est marquée de longue date au sein des usines. Dans quelle mesure on peut dire que finalement cette fameuse OST, cette organisation scientifique du travail, on la retrouve aussi, elle est renouvelée avec les enjeux du e-commerce bien plus tard évidemment. Dans quelle mesure finalement cet impératif, notamment du flux tendu, qui constitue la spécificité aussi de ce commerce en ligne, prend sa source aussi dans une certaine vision de l'organisation du travail.
Je crois que le e-commerce, effectivement, est l'exemple ultime de cette optimisation. Il est très, très efficace sur ce plan-là, dans le couple entrepôt et gestion des entrepôts et flux, tout ce qui entre et qui sort de ces entrepôts. Il y a une diversité d'entrepôts, ils ont chacun leur fonction dans une chaîne de commande d'un produit du e-commerce, et ces entrepôts sont eux-mêmes extrêmement organisés pour limiter le temps du stockage de ces marchandises en attendant notre acte d'achat. Elles attendent le client, mais elles sont localisées de façon optimisée dans les entrepôts qui sont eux-mêmes de plus en plus automatisés. C'est une histoire plus récente, cette automatisation des entrepôts géants du e-commerce, elle est intéressante. Il y a différentes technologies d'ailleurs. Les acteurs du commerce n'ont pas choisi forcément le même agencement intérieur. L'optimisation également des flux entrants et des flux sortants se fait. Elle s'est fait plus tardivement, je dirais. Alors, comme le disait Nathalie, il y a beaucoup de prestataires de transport. J'étudie beaucoup, moi, la dernière partie de cette prestation de transport, donc ce qu'on appelle le dernier kilomètre ou les 50 derniers kilomètres. Et là, l'optimisation s'est faite plus progressivement. Et là, des acteurs, justement, comme Amazon ou d'autres, pour d'autres types de produits comme les repas, Uber, Eats ou Deliveroo, ont eux-mêmes apporté des sortes de cadres nouveaux d'optimisation de ces trajets de la fin, en fait, jusqu'au destinataire qui jusque-là était un peu plus éparpillé.
C'est intéressant, Laetitia Dablan, cette évocation aussi des différents leviers finalement qui sont activés pour participer à cette optimisation. Vous avez parlé de l'optimisation des flux, il y a aussi la standardisation des contenants. Très concrètement, Laetitia Dablan, à partir de quand l'idée du juste à temps, l'idée d'être en flux tendu aussi sur ces plateformes de livraison devient un impératif? Vous avez parlé des micro-entreprises qui font de la livraison, où là, on le voit bien, cet impératif, mais qui sont relativement récentes finalement. Est-ce que dès le départ, cette idée d'être livré le plus vite possible et d'en faire un argument de vente, d'en faire une façon, d'une certaine façon, de la valeur ajoutée, est présent aussi pour les plateformes de vente en ligne?
Le juste à temps, c'est quelque chose d'historique et qui est tellement intégré que le e-commerce, en arrivant dans les années 2000, a tout simplement, bien entendu, intégrer cette évidence. Ils l'ont fait de façon presque inconsciente, probablement. C'est une pratique de la logistique qui est bien antérieure. L'idée, c'est surtout de limiter au maximum le temps d'entreposage des marchandises, qu'elles soient au niveau amont ou au niveau aval de leur existence. Le juste à temps dans la logistique du e-commerce, je pense, est remarquablement montré par justement cette organisation de ces immenses entrepôts qui attendent les commandes des clients à travers cette réorganisation constante et cette automatisation progressive donc de l'intérieur des bâtiments. Donc ce sont des marchandises qui peuvent être des millions dans un seul bâtiment, des millions de références et encore plus de produits. Une référence, c'est tout simplement
un article
mais spécifique, l'article rose de telle marque, de tel type. Donc il y a encore plus de produits que de références, donc des millions de marchandises qui sont dans un entrepôt, et ils ne resteront pas plus de quelques jours, une semaine, deux semaines maximum. Donc ça, ce sont des standards qui sont généralisés, mais qui constamment s'améliorent. Donc on peut probablement retracer cette optimisation à l'intérieur de ces entrepôts depuis les années 2000, à travers ce nombre de jours, tout simplement, où les marchandises restent. On sait maintenant, en prévisionnel, ce que les consommateurs veulent acheter, tout simplement, puisqu'on traite la donnée de façon continue, et donc on peut très très bien réorganiser constamment les approvisionnements de ces gros bâtiments.
On voit qu'effectivement le juste à temps reste l'horizon. horizon. Nathalie Fabkost, on connaît le Fordisme, on connaît le Taylorisme, le Toyotisme. Est-ce qu'il existe un mode d'organisation, on va dire à la fois des flux et du travail, qui serait propre de fait à la logistique telle qu'elle s'organise dans le secteur du e-commerce? Est-ce qu'il y a un mouvement, on va dire une scientificité de la chose, ou est-ce que c'est finalement une façon d'agréger tous les précédents mouvements de l'organisation scientifique du travail qui se retrouvent de fait au sein des entrepôts, au sein de la gestion de ces chaînes logistiques?
Alors, je dirais, comme Laetitia l'a très bien dit, la logistique est très ancienne, hein. Alors, après, on date souvent le début de la logistique en entreprise dans les années 60-70, et puis le grand boom à partir des années 80, si on veut faire simple. Je crois qu'il faut souligner un point très, très important sur la logistique, c'est que on a besoin non seulement de flux physiques, d'objets physiques et de sites physiques comme des entrepôts. Mais ce qui fait la logistique et ce qui fait la capacité à optimiser, c'est le flux d'informations et ce sont les données. Et là où le e-commerce est absolument incroyablement performant, c'est dans la capacité à associer le marketing, la logistique, la finance et les systèmes d'information, puisque finalement, ils arrivent à piloter complètement, y compris nos désirs, puisque ils vont jusque-là, en intégrant une traçabilité totale du consommateur, de son parcours sur un site web, de ses ventes, de ce qu'il achète, de ce qu'il retourne. Donc on a une traçabilité complète du consommateur. Ensuite, ces données-là permettent effectivement de faire des prévisions et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, des prédictions sur ce qui va le mieux marcher. Et là où ils sont encore plus forts, et Amazon a été un des premiers à faire ça, c'est finalement, avec du marketing, de nous pousser à commander des choses qui n'existent même pas, qui n'ont même pas été produites. Par exemple, le lancement d'un nouveau livre ou d'un nouveau disque ou d'un film, pour faire acheter des DVD par exemple, eh bien, précommandez et vous serez les premiers à avoir tel produit. Et ces précommandes, bah, vous payez à la commande, donc ils ont l'argent, vous leur faites leur trésorerie en plus, et ils ont juste besoin d'acheter des choses qu'on leur a déjà payées et qui vont ensuite être livrées. Donc, quelque part, il y a tout ce travail d'optimisation à triple flux, des flux d'informations, des flux financiers et des flux physiques. Et ça, c'est véritablement la puissance du e-commerce. Et on ne peut pas du coup découpler cette logistique-là de toutes les technologies qui ont en fait accompagné son essor avec, dans les années 2010, les fameuses technologies 4.0, puisque c'est celles-là qui permettent de faire du big data, c'est celles-là qui permettent de faire de la data analytics, hein, et du coup de la prédiction, et après d'optimiser de manière incroyable. Finalement, quel que soit le canal, parce que je pense qu'on en reparlera, là où il y a vraiment une capacité incroyable d'optimisation logistique en e-commerce, c'est quand on est dans de l'omnicanal. Et ça, c'est vraiment très impressionnant.
Alors effectivement, on va voir comment ces canaux-là se reconfigurent au fil du temps et puis au fur et à mesure que la demande aussi se structure de son côté et que le modèle prend racine aussi dans des habitudes de consommation. Ça, ce sera plutôt dans les années, on va dire, 2010 jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Vous l'avez dit, Nathalie Fabkost, l'invention, on va dire, la mise en place de la vente à distance, par correspondance, existe depuis longtemps déjà. On pourrait se dire que vous avez cité l'exemple de la Redoute. La Redoute a été fondée en 1837. C'est en 1928 que son catalogue permet aux clients et aux clientes de procéder à des achats de fait par correspondance. Et le système se consolide au fur et à mesure que les moyens de communication évoluent, un peu comme aujourd'hui. Et en 1986, c'est le téléphone qui assure la liaison.
La Redoute, bonjour. Oui, vous me donnez votre numéro de cliente? Bon, on va voir les références. Alors, vous me les donnez. Le 1000 pattes, 629, 13, 09. Oui, tout est disponible. Donc, si vous voulez être livré chez vous, c'est 8-10 jours. Si c'est dans un magasin Redoute, c'est 48 heures. Je dis à partir de 15 heures. Qu'est-ce que vous préférez? À domicile? Oui, pour Noël, vous les aurez, il n'y a pas de problème.
Sur tout le territoire français, nous avons des terminaux qui sont reliés à notre ordinateur central à Roubaix. Sur ces terminaux, nos hôtesses ont immédiatement la disponibilité des articles. Donc lorsque vous nous téléphonez, on vous donne tout de suite la disponibilité des articles.
Est-ce que vous acceptez une commande pour un article que vous devez, vous, recevoir de vos fournisseurs?
Une semaine avant Noël, nous n'assurons des commandes pour Noël que sur nos articles en stock. Même si nous prévoyons une livraison, nous ne prenons pas la commande. Nous voulons garder la confiance de nos clientes et vraiment c'est un point d'honneur. Nous voulons que nos articles prévus pour le 24 décembre arrivent pour le 24 décembre. Et d'ailleurs, il y a sur nos colis prévus pour Noël une étiquette priorité Noël.
Voilà, on entendait à l'instant un extrait de l'émission C'est la vie, diffusée donc en 1986 sur France 2. Depuis, les temps ont bien changé. On ne passe de fait plus par téléphone et ce sont de grandes plateformes sur Internet qui ont pris le relais. Nathalie Fabcoste, avant même, je voudrais juste qu'on, parce que je trouve ça assez intéressant, ces moments de bascule, avant même qu'il y ait l'apparition de ces grandes places de marché, comme on les appelle typiquement, c'est le cas d'Amazon. Finalement, on pourrait se dire que la vente par correspondance avait déjà subi un très grand bouleversement, celui de la mondialisation, celui des délocalisations qui implique aussi de faire circuler des marchandises et de renforcer, on va dire, ces flux logistiques-là. Est-ce que dès les années 80, donc on ne parle même pas des années 2000-2010 où il y a ces grandes places de marché, est-ce que dès les années 80, on se dit là, il va falloir changer nos méthodes, il va falloir qu'on comprenne ce qui est en train de se passer, il faut qu'on rationalise les flux, il faut qu'on se saisisse de cet objet-là qu'est la logistique?
Alors, je le dirais pas comme ça. En fait, ça s'est fait assez progressivement, au fur et à mesure, finalement, où il y a eu des dérégulations, d'une part, puisque dans les années 80, il y a eu une dérégulation du secteur du transport qui a fait beaucoup bouger les lignes dans les entreprises industrielles qui, avant, transportaient elles-mêmes. À partir des années 80, elles ont commencé à externaliser certaines activités comme le transport ou même l'entreposage. Et puis, au début des années 90, le grand changement, ça a quand même été la constitution de zones de libre-échange. Alors, l'Europe en est un, mais pas seulement. Et où les entreprises ont commencé à trouver une facilité à conquérir le monde, tout simplement. Et elles ont été accompagnées en cela avec les transporteurs qui se sont développés en même temps que les entreprises allaient conquérir le monde. Donc dans les années 90, on était plutôt sur des régions du monde qui se structuraient. Et puis, avec les années 2000, on parlait d'Internet. Internet, c'était le village global. On avait cette vision que le monde était mon marché, et le monde est mon marché. Et donc, si je suis distributeur, je vais avoir des fabricants qui vont aller conquérir le monde. Et en même temps, je vais trouver là-bas des produits très intéressants que je vais pouvoir importer. On peut prendre l'exemple de Carrefour. Carrefour s'est internationalisé en tant que distributeur. Quand il s'est implanté dans certains pays, il a découvert des produits et il s'est dit « Ah bah tiens, c'est sympa ces produits, je pourrais peut-être les réimporter, enfin les importer en France pour faire par exemple la semaine de la Chine ou la semaine de l'Amérique du Sud ou la semaine antillaise ou la semaine, peu importe. » Donc à chaque fois qu'un marché était conquis, on découvrait des nouveaux fournisseurs, on découvrait des nouveaux produits, et bien c'était l'occasion de les faire venir en France et de les faire partager aux consommateurs français. Donc chaque évolution du commerce dans le monde, des technologies associées et des transporteurs et de leur capacité à finalement accompagner les industriels et les distributeurs dans leur stratégie internationale a fait évoluer les choses de manière finalement progressive, et cette mondialisation, elle s'est finalement imposée toute seule parce que, y compris en tant que consommateur, les gens étaient ravis de découvrir des nouveaux produits, de découvrir des choses plus exotiques, et c'était pas vu du tout comme quelque chose au départ de pénalisant ou de pas bon. Au contraire, c'était un progrès, c'est-à-dire qu'on parlait de développement international. Le durable est venu plus tard.
Et on va voir que le durable est toujours un enjeu aujourd'hui, voire même plus que jamais. Mais vous l'avez dit, à cette mondialisation galopante succède de fait la généralisation de l'usage d'Internet et puis la vitrine qu'offrent de fait ces fameux sites où toute marchandise est comparable et commandable en un temps record. Les années 90-2000 sont celles d'un véritable tournant. Donc, et en 1999, Jeff Bezos revenait justement sur ses débuts quelques années plus tôt.
La prise de conscience est partie d'un fait très surprenant. J'ai découvert que l'utilisation du web augmentait de 2300% par an. Comme vous le savez certainement, les choses ne se développent jamais aussi vite. Nous avons commencé à vendre des livres, et l'un des points essentiels avec les livres, c'est qu'il y en a une quantité astronomique. Nous avons donc développé une librairie en ligne avec des millions de titres, alors que les plus grandes librairies physiques ne peuvent stocker que 150 000 titres. En ligne, on peut construire une offre très large, et les consommateurs valorisent cela. Nous avons l'intention de continuer à investir sur le long terme, et de le faire aussi longtemps que cela semblera judicieux. Nous nous trouvons à une période critique, à une époque où de nouveaux clients viennent en ligne pour la première fois. Et ils ne cessent de nous demander d'investir dans de nouveaux domaines. Nous sommes donc passés des livres aux jouets, à l'électronique, aux outils et à bien d'autres produits comme les jeux vidéo et ainsi de suite. Ce sont à chaque fois comme de nouvelles enseignes et nous mettons un point d'honneur à offrir la meilleure expérience client. Ce sont des investissements très coûteux, mais nous pensons que l'alternative qui consisterait à essayer d'optimiser la rentabilité de court terme serait très restrictive. Il s'agit donc d'une stratégie d'investissement consciente et nous y croyons fermement.
Et voilà, dans les années 2000 puis 2010, désormais à une demande individuelle correspond une offre à la fois très diversifiée mais aussi centralisée sur ces fameuses places de marché. Là, Laetitia Dablon, il faut nous expliquer peut-être un premier paradoxe. On l'a dit, une des façons de créer de la valeur, en tout cas ce qui fait la valeur de ces places de marché, c'est d'héberger plusieurs fabricants différents, de mettre à disposition énormément de références différentes, mais c'est un peu paradoxal. On pourrait se dire quel est l'avantage de ces fabricants de pouvoir être comparés avec la concurrence directe et de laisser le choix de fait aux consommateurs, aux consommatrices, de choisir ce qui leur va le mieux, ce dont ils ne seraient pas forcément aperçus dans un magasin physique, on va dire. On a un peu envie de se demander pourquoi ça attend plus ce modèle-là aux fabricants eux-mêmes.
J'imagine que c'est le modèle du quartier spécialisé où on sait que les clients vont être intéressés par la multitude des offreurs, des vendors, comme on dit, pour le e-commerce, qui peuvent chacun proposer des produits toujours un petit peu différents et aux clients de jouer à ce jeu de la comparaison et de l'achat. Je crois que c'est historiquement universel.
Et juste, Laetitia Dablon, pour qu'on rentre un peu dans le détail de la façon dont ça fonctionne très concrètement, parce qu'on pourrait se dire, si on essaie de suivre la chaîne logistique, on pourrait se dire un fabricant fabrique une marchandise, la met à disposition à la vente via un site typiquement comme Amazon, la commande est passée, mais du coup pour le fabricant, doit quand même l'acheminer jusqu'à un entrepôt où Amazon peut le récupérer. En fait, comment ça fonctionne? Est-ce que ça ne serait pas rajouter un maillon de la chaîne que de passer par une étape supplémentaire qui est celui des marketplaces, des places de marché?
Un vendeur en ligne qui utilise la place de marché d'Amazon n'est pas obligé d'utiliser le contrat logistique, mais beaucoup le font parce que c'est une logistique efficace, on l'a déjà
vu. Il a fait ses preuves.
Et donc, il préfère effectivement entrer dans ce circuit et payer une prestation supplémentaire à Amazon ou aux autres pour effectuer cette logistique. Et cette logistique, elle n'est pas effectuée directement par des employés d'Amazon qui seraient derrière tous les camions et toutes les camionnettes de livraison. C'est souvent des sous-traitants, mais ce sont des sous-traitants, soit des circuits traditionnels, on l'a dit tout à l'heure, La Poste, DHL, UPS, soit de plus en plus, depuis quelques années, c'est la grande révolution logistique d'Amazon, ces propres sous-traitants formés presque directement par Amazon. Ça s'appelle les Delivery Service Partners, donc des partenaires de livraison, c'est le même sigle pour le monde entier. Donc c'est un modèle, un format tout à fait nouveau où Amazon a des sous-traitants qui sont des toutes petites entreprises, voire dans beaucoup de pays, pas en Europe, mais dans beaucoup de pays, des particuliers qui utilisent une application. Et donc, ces toutes petites entreprises qui vont effectuer la livraison sont configurées un peu sur un modèle d'Amazon, en quelque sorte, avec une organisation extrêmement militaire au sein des entrepôts de récupération des colis, par exemple, des algorithmes qui organisent beaucoup le transport de ces livraisons de tous ces colis. Et donc cette optimisation-là, Amazon peut la faire d'une certaine façon tout à fait directement parce qu'ils contrôlent, ce sont les gros donneurs d'ordre de ces toutes petites boîtes ou de ces particuliers qui vont faire les livraisons.
Donc on le voit, l'avantage finalement dans cette centralisation, c'est de bénéficier d'une sorte de savoir-faire Amazon, entre autres, d'une forme de visibilité aussi. Et du reste, en 2023, les commissions auprès des vendeurs tiers représenté pour Amazon 24,4% de son chiffre d'affaires. Donc on voit bien là que ça fait partie du modèle économique. Alors on l'a dit, Nathalie Fabkost, il y a une forme d'expertise qui se met en place, qui est très liée à la fluidité finalement que cela permet que de passer par ces très grandes places de marché en ligne. On a commencé à évoquer un problème, tout de même une sorte de grain de sable, on va dire, dans l'engrenage, qui est celui du retour, qui est un problème, vous l'avez dit, qui explique aussi que le e-commerce n'explose pas non plus dès le début milieu des années 80, dès le moment où au milieu des années 90 il est mis en place, et ça reste un problème majeur aujourd'hui. Selon une étude de McKinsey qui a été menée fin 2024, jusqu'à 30% des articles de mode sont renvoyés. C'est lié à 70% à des problèmes de taille, ce qui pèse sur les marges des e-commerçants du textile. Un retour de colis coûte en moyenne entre 21 et 46 dollars. Nathalie Fabkos, concrètement, on est toujours confronté à ce genre de petits problèmes. Dans quelle mesure cela pèse véritablement à la fois sur ces entreprises du e-commerce, mais aussi de façon plus générale d'un point de vue environnemental?
Alors, la question des retours, c'est un vrai sujet, mais ce qui est un sujet assez complexe, parce que d'une part, l'objectif était au départ de protéger le consommateur. C'est-à-dire que si effectivement il y a un problème avec le produit ou avec le colis, puisque la responsabilité, par exemple, d'un produit abîmé peut incomber au transporteur qui n'a pas pris soin du colis, ou elle peut être de l'origine du fabricant qui a mis un produit qui n'est pas conforme à ce qui est attendu. Donc l'origine du pourquoi il y a un problème, elle peut être multiple. Le fait est qu'il faut protéger le consommateur, et les associations de consommateurs l'ont bien fait savoir au début du e-commerce, il faut laisser cette liberté de pouvoir effectivement retourner un produit s'il y a un problème. Pour autant, on a observé des dérives. Alors, différencier selon les pays. La France n'est pas le pays où on a les plus graves problèmes en matière de retour, mais se développent des pratiques, effectivement, notamment dans le textile et les accessoires, qui sont les produits les plus retournés, hein, statistiquement parlant, puisque certains consommateurs peuvent commander, par exemple, la même référence dans des coloris différents, dans des tailles différentes, pour pouvoir essayer confortablement chez lui ou chez elle et retourner les produits qui ne vont pas. Donc, on peut observer des dérives, voire des personnes qui, de manière compulsive, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le e-commerce a tendance à pousser à la surconsommation et justement à tenter le consommateur pour avoir un achat impulsif. Mmh. Et puis, cette personne peut très bien se rétracter ou regretter cet achat et, pour diverses raisons, ne plus souhaiter acheter le produit et donc le retourne. Donc, ces dérives, on les observe, elles augmentent. Et c'est vrai qu'on l'évoquait en début d'émission, Chine est émue. Ce côté promotion, petit prix, agressivité publicitaire et promotionnelle, parce qu'il y a une vraie agressivité de ces plateformes vis-à-vis des consommateurs, tente le consommateur et du coup emballe un petit peu le problème du retour. Alors, retour qui est géré très diversement par les enseignes. C'est vrai que pour eux, c'est un atout d'avoir un système de retour très optimisé. Et donc, certains ont même des pratiques, on en discutera peut-être, assez problématiques, puisque finalement, on préfère ne pas gérer le retour que de le gérer vraiment, ce qui amène à du gaspillage et ce qui amène, voire, à détruire des produits qu'on pourrait tout à fait quand même remettre dans les circuits.
Ce qui est intéressant, Nathalie Fabkost, excusez-moi de vous interrompre, je rappelle que vous êtes à distance, donc voilà, on ne peut pas communiquer autrement que comme cela. Mais ce qui est intéressant avec cet exemple des retours, je trouve, c'est que finalement, c'est identifié comme un problème. On le voit, ça rallonge la chaîne, c'est un coût qu'il faut prendre en charge, c'est du reconditionnement derrière, ça entraîne toute une série d'autres problèmes. Alors que ce soit pour les problèmes de taille dans le secteur textile, mais aussi pour les erreurs dans la préparation de commandes, ce qui arrive également, alors dans une moindre mesure, mais ce qui arrive. Dans les deux cas, l'intelligence artificielle est appelée à la rescousse, à la fois pour permettre aux usagers de visualiser au mieux l'effet du vêtement acheté, mais aussi pour doter les chariots élévateurs de caméras qui se chargent de vérifier la couleur ou la taille du produit repéré dans les rayons et qui essaient de minimiser les erreurs. Finalement, Nathalie Fabkos, on a l'impression que, notamment à travers cette utilisation de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, on a le résumé finalement de cet objectif d'optimisation, c'est que en fait, personne jamais n'a le droit à l'erreur. Est-ce qu'on pourrait résumer l'objectif de l'optimisation et notamment pour les plateformes de e-commerce ainsi?
Ah, tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui fait le grand succès d'Amazon. C'est-à-dire que après, on peut discuter est-ce que c'est bien ou c'est mal le e-commerce, mais force est de constater que l'excellence opérationnelle d'une entreprise comme Amazon force le respect en termes de logistique. Ce sont des gens excellents et qui mettent tous les moyens technologiques à leur disposition et qui sont en train de se développer, voire qui les développent eux-mêmes parce qu'ils font beaucoup de recherche et développement pour justement trouver des nouvelles solutions pour résoudre les problèmes qui se posent à eux. Oui, tout à fait. Le e-commerce, c'est vraiment presque la quintessence de l'optimisation logistique, on pourrait le dire.
Donc on le voit, il y a toute une logique d'optimisation qui se met en place, à la fois du temps, de l'espace, on va le voir également du travail. Finalement, ces grandes plateformes, ces grands sites de e-commerce, de commerce en ligne, finissent par proposer aussi un service extrêmement efficace grâce à ces techniques. Des services qui finissent parfois par être réappropriés par d'autres, dans le sens où notamment Amazon a réussi à relativement se diversifier, on le disait, en proposant ses propres services de livraison, mais aussi des services informatique, on l'a dit, hein, la maîtrise des outils numériques et de la donnée aussi est un avantage compétitif, on pourrait le dire, et Amazon a lancé en 2006 Amazon Web Services, qui constitue tout de même 15,8% de son chiffre d'affaires. Donc voilà, cela devient des entreprises qui se spécialisent aussi dans cette gestion des flux, ce qui pourrait réserver un certain nombre de défis en soi. À chaque fois, il y a une forme de contournement par ces grandes plateformes, mais évidemment, ces stratégies d'optimisation ne sont pas sans conséquence, même si le plus important reste que le colis soit bien et rapidement ficelé. C'est ce que nous dit à sa manière le bien nommé groupe Parcels, soit colis en anglais, dans son titre Tied Up Right Now. À l'écoute de France Culture, optimisée ou comment la logistique parvient envers et contre tout à produire de la valeur. C'est notre mot de l'écho et donc notre sujet aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho. Et nous sommes toujours en compagnie de l'urbaniste Laetitia Dablan et de la professeure en sciences de gestion Nathalie Fabcoste. Laetitia Dablan, on l'a vu, le modèle économique des places de marché, soit des sites internet qui rassemblent sous leur houlette un ensemble de produits de marques différentes pour les livrer une fois la commande passée, se consolide dans les années 2000. En 2023, 71% de la population européenne achète en ligne. Mais là encore, on pourrait se dire que ce qui constitue la force même de ces plateformes de commandants en ligne, à savoir être capable de livrer à un très grand nombre de personnes dans des endroits complètement, enfin, aux quatre coins du globe, on pourrait se dire que c'est aussi un défi majeur, puisque cela représente des distances à parcourir, tout en ayant cet impératif du juste à temps, donc potentiellement des coûts, celui du transport, et à plus forte raison. Et on voit que c'est le contexte aujourd'hui quand il s'agit de petits colis. Très concrètement, comment ces plateformes-là s'adaptent dès lors qu'il faut livrer des toutes petites commandes en temps et en heure et à plein de gens différents? Comment, au niveau des transports, cela, l'optimisation reste possible ou non?
Ça s'appelle la massification. Il y a des tournées, donc on essaie au maximum de livrer plusieurs destinataires. Dans une camionnette de colis, on peut avoir 150, 200 destinataires différents. Donc on massifie ainsi les transports, et c'est évidemment une des grandes parties de cette optimisation logistique, celle du e-commerce comme les autres. C'est cette massification de la tournée qui doit absolument s'opérer. Elle s'opère. Elle n'est pas toujours efficace, elle est parfois ratée, notamment en ville où il y a des obstacles, on va dire, urbains qui sont difficiles pour des pur logisticien à surmonter, mais l'idée c'est de réduire les transports. On a même une massification ultime qui est souvent, on en parlait tout à l'heure et ça c'est un clin d'œil à l'histoire, celle de la livraison sur des points relais. Donc on estime qu'on peut économiser un peu de transport parce qu'on ne va pas auprès de tous les destinataires, c'est eux qui vont venir au point relais. Et d'ailleurs, parce qu'on avait cette avance historique des points relais Redoute et Trois Suisses, la France est aujourd'hui le plus gros utilisateur de points relais d'Europe, par exemple. Donc il y a un peu l'historique qui continue à jouer chez nous. Cette massification se fait évidemment via l'organisation de plus en plus optimisée des flux d'informations, y compris des flux d'informations de trafic pour à destination des transporteurs.
Et puis, il y a un kilomètre qui résiste, vous l'avez dit, Laetitia Dablan, c'est le dernier, ce fameux dernier kilomètre. C'est une forme de grain de sable, là encore, dans les rouages. Or, de fait, les places de marché, les plateformes de e-commerce n'aiment pas trop les grains de sable. On l'a compris, le but, c'est que tout soit fluidifié le plus possible. Pourquoi, Nathalie Fabkos, ce dernier kilomètre est-il à ce point crucial ?
Alors, le dernier kilomètre, il est crucial, mais la question est de savoir finalement de quel dernier kilomètre on parle. Parce que je crois qu'il y a un sujet qu'on n'a pas assez abordé de mon point de vue, d'un point de vue en tout cas optimisation logistique, c'est cette question du multi ou de l'omnicanal. Aujourd'hui, l'enjeu, il est plus seulement, parce que on parlait beaucoup des pure players jusqu'à présent, et c'est vrai qu'ils jouent un rôle très important, mais beaucoup commencent à considérer que avoir des points de contact avec les clients, c'est très important, voire c'est de plus en plus important. Ce qui veut dire que beaucoup d'enseignes aujourd'hui, celles qui ont des magasins physiques ou qui en développent, puisque certaines viennent aussi à développer des points de contact avec la clientèle, qui sont des points relais ou des points de remise des retours ou des showrooms pour pouvoir essayer les produits justement pour éviter ces retours dont on parlait tout à l'heure.
Ça avait été le cas de Chine récemment, l'année dernière.
Voilà. Donc on voit bien qu'il y a en fait une hybridation des modèles. Et là où il y a une optimisation qui est en train de se construire, c'est sur des niveaux de stock et des positionnements de stock sur différents canaux. Parfois pour attirer le consommateur dans un magasin, parce que finalement, quand on est dans un magasin, on se fait tenter aussi par des produits qui sont disponibles. C'est ce qu'essaie de faire la FNAC en incitant à venir chercher des livres plutôt en magasin que de se les faire livrer à domicile, parce que une fois qu'on est dans un magasin à la FNAC, on peut pas résister finalement à s'acheter un livre supplémentaire ou un CD supplémentaire.
Prévu.
Voilà, qu'on n'avait pas prévu. Donc cet achat d'impulsion, il n'est pas que virtuel, sur son mobile ou frénétiquement, on va commander des choses mais qu'on va peut-être retourner après. Une fois qu'on est dans le magasin physique, finalement, si on se laisse tenter, on ramènera pas le produit, on va le garder. Donc, il y a cette hybridation des modèles qui est en train de se faire, avec du coup jouer sur des niveaux de stock qui peuvent être soit dans des méga plateformes, c'est le cas d'Amazon, mais on n'a pas tous les produits en stock, on n'a que les fameux 80% qui génèrent, les 20% qui génèrent les 80% de chiffre d'affaires, je dirais. Mais on a aussi des stocks qui vont être en magasin pour les produits les plus demandés ou les plus récents. Quand on parle de sorties avec des phénomènes de saisonnalité, comme dans le livre ou même comme dans le parfum, puisque ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que dans le e-commerce, il y a énormément de volatilité et on joue beaucoup sur cette saisonnalité des fêtes ou de la fin d'année.
Pour encore créer la demande, on imagine.
Voilà, tout à fait. Et donc, là où l'optimisation devient encore plus impressionnante, c'est quand on arrive à jouer de tous ces stocks qui sont un peu partout, dans des lieux très différents, certains étant ouverts au public, d'autres non, certains faisant de la vente physique, d'autres non, et où, avec le système d'information, eh bien, on va avoir cette visibilité totale sur tous les stocks en temps réel, et où on va pouvoir utiliser des routes qui sont pas nécessairement prévues à l'avance, c'est-à-dire qu'on a une agilité extrême dans la circulation des flux, alors qu'on était, comme le disait Laetitia au début, sur des choses très militaires et très organisées, très structurées. Maintenant, on va vers une beaucoup plus grande agilité du fait de la visibilité sur tous les stocks.
Laetitia Dablon, cette question des stocks, elle est extrêmement importante et c'est vrai qu'on pourrait se dire, à partir du moment où les commandes sont plus petites et les livraisons de plus en plus individualisées, quasiment au niveau du numéro de la rue, ça se joue à ce niveau-là. Alors certes, vous avez mentionné les points relais ou les lockers, ces fameuses consignes automatiques, mais tout de même, il y a quand même cet avantage de l'individualisation. À partir de ce moment-là, on pourrait se dire le plus pratique, le plus logique, ce serait effectivement d'avoir des stocks le plus proches possible pour pouvoir répondre à cet objectif de temps et en heure. Est-ce que c'est effectivement un mouvement qu'on observe au fur et à mesure qu'on a cette intensification des petits colis ?
Pas forcément lié à la taille des colis, mais on a, oui, absolument cette arrivée au plus près des consommateurs d'entrepôts qui n'existaient pas avant. Il y en a une centaine, hein, par exemple, dans une grande ville comme la métropole de Paris. Il n'y en avait pas il y a 5 ans. Et donc, on les appelle les hubs logistiques urbains. Et effectivement, ça permet alors 2 choses. D'une part, effectivement, de livrer plus vite, mais ce ne sont pas forcément des stocks, hein, ce sont plutôt des petits entrepôts où on va traiter une commande qui est déjà partie d'un stock qui est quand même un petit peu plus loin. Mais ça va surtout permettre l'utilisation de véhicules qui, eux, vont être de type vélo-cargo ou bien même beaucoup de livreurs à pied aujourd'hui.
Dans un impact environnemental moindre.
Voilà, dans une espèce d'objectif de décarbonation de ces entreprises ou des territoires qui les accueillent. Et donc, c'est à partir de ces hubs, les livraisons vont se faire avec des véhicules donc un petit peu différents. Mais effectivement, ça peut aussi permettre d'améliorer, d'optimiser la qualité de service en termes également de délai.
Vous avez parlé donc de ces entrepôts, on peut dire des petits entrepôts relais qui prennent en charge une forme de tri juste avant la livraison à l'individu, à la personne qui a commandé. On a aussi en tête les images des énormes entrepôts, pour le coup, eux situés plutôt en zone rurale ou en périphérie des villes. Est-ce que ces entrepôts-là sont toujours considérés comme des points hautement stratégiques pour ces fameuses plateformes du commerce en ligne ? Et puis surtout, autre question, Laetitia Dablon, au nom de quoi, finalement, les collectivités territoriales, notamment, acceptent qu'un tel entrepôt arrive sur leur territoire ? Est-ce que ce sont de grandes sources, par exemple, d'emplois ? Est-ce que véritablement, parce qu'on se pose aussi la question de la valeur que créent ces plateformes, mais finalement, est-ce que c'est un vivier d'emplois qui peut effectivement apporter une forme de dynamisme économique à certains territoires ?
Aujourd'hui, ce sont des monstres. Je crois que ce sont les plus gros bâtiments de France, par exemple, jusqu'à 200 000 mètres carrés. Parfois sur 2-3 étages, c'est la nouvelle forme architecturale de ces bâtiments. Ça permet au moins de réduire un peu la consommation foncière. Avec un bâtiment de 200 000 mètres carrés, on a environ 4 000 emplois. L'automatisation va réduire un petit peu, mais pas tant que ça. Il va y avoir un volet important d'emploi. Et les stratégies des collectivités sont variées, mais on peut faire une typologie. Il y a celles qui veulent ces emplois, il y a celles qui ne veulent pas ces entrepôts en raison des nuisances causées par ces entrepôts. Donc, on a une variété de stratégies, mais on a quand même 2 grands groupes de collectivités. En Ile-de-France, par exemple, avec ces 1300 communes qui ont tout ou presque le pouvoir de donner un permis de construire, vous avez environ 500 communes qui ont accepté un entrepôt.
Nathalie Fabcoste, on parlait des emplois potentiellement créés. Il y a la question du nombre, il y a aussi la question de la qualité. Et il faut le dire, fin décembre 2023, Amazon France Logistique avait été condamnée à 32 millions d'euros d'amende par la CNIL pour avoir mis en place un système de surveillance de l'activité et des performances des salariés excessivement intrusif. Finalement, la logique d'optimisation du e-commerce, de la même façon que l'organisation scientifique du travail avant elle, a un prix, celui de la santé physique et psychique des travailleuses et des travailleurs. Concrètement, on peut le dire, Nathalie Fabcoste, sans ce prix-là, l'optimisation ne serait pas possible. Ça fait partie du modèle économique de ces plateformes.
Comme vous l'avez rappelé avec l'illustration sonore autour de l'organisation scientifique du travail, dès lors qu'on optimise, tout, c'est-à-dire qu'on optimise l'espace, on optimise le temps, on optimise les emballages, hein, puisque on optimise jusqu'aux emballages aujourd'hui, et on optimise effectivement l'usage de toutes les ressources, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit physique ou qu'elle soit informatique. Donc l'humain est dans ce système-là très optimisé, très surveillée. On a une traçabilité totale, effectivement, des personnels. Et ce qu'évoquait tout à l'heure Laetitia à propos des Delivery Service Partners ou des sous-traitants d'Amazon, il faut savoir que tous ces sous-traitants sont obligés de rendre compte de leur activité en temps réel dans le système Amazon. C'est-à-dire que quand Amazon sous-traite, Amazon impose une visibilité, une transparence totale. Alors, l'argument qui est donné, qui est un peu fallacieux, c'est de dire « Ah oui, mais moi je veux être sûr que vous n'imposez pas des conditions de travail inacceptables à vos salariés à cause de nous ». Sous-entendu, c'est une forme de détournement du devoir de vigilance, un peu à leur avantage. Donc, on vous met des objectifs extrêmement durs en termes de productivité, mais attention, on vous surveille, vous ne devez pas le faire au détriment de vos salariés.
On le comprend, Nathalie Fabkos, je suis désolée de vous interrompre, cette émission est en train de se terminer. On le comprend, une des stratégies d'optimisation consiste à contourner finalement aussi certaines lois. On n'a pas eu le temps malheureusement de revenir sur toutes les propositions de taxes qui ont été faites, et notamment en ce qui concerne les livres pour Amazon, qui prend un malin plaisir à continuer à proposer la gratuité malgré la loi entrée en vigueur en octobre 2023, la loi Darkos. Et on peut se demander dans quelle mesure la frontière entre optimisation et bascule dans l'illégalité est fine, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler. En attendant, je vous remercie infiniment toutes les deux, Laetitia Dablan et Nathalie Fabkos, d'avoir participé à cette émission.